13h à Yaoundé sur CRTV, le poste national. Voici dans Cameroun Magazine le temps de l'information. Le 13h, Constanze.
Mesdames, messieurs, bonjour. Voici le 13h du mardi 13 août 2024. Au sommaire de cette édition, consommation de drogue en milieu jeune, les 19 à 32 ans ou la tranche en danger. La révélation est du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, à la clôture il y a quelques jours de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. Comment les jeunes se ravitaillent-ils et que fait le programme national de lutte contre la drogue? C'est notre dossier du 13h. Banane plantain, un secteur au cœur de la nation, la CRTV apporte sa contribution à l'expansion de cette filière qui produit plus de 5 millions de tonnes de bananes plantain chaque année au Cameroun. C'est à travers une convention de partenariat qui sera signée cet après-midi en balade entre le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le promoteur du festival Banane plantain du Cameroun et capitaine d'industrie, Tony Obam, dans le 13h, état des lieux d'une filière qui monte en puissance au Cameroun. Et en sport, Jeux paralympiques Paris 2024, la Cameroun Olympic Team poursuit son acclimatation dans la ville de Poitiers en France. L'équipe sera reçue cet après-midi par les autorités de la ville et Interpol 2024. Le tableau des demi-finales sera complet cet après-midi après les matchs de la 5e journée. Bienvenue à tous. Prenons d'abord la direction de l'immeuble Étoile, où un protocole d'investissement vient d'être signé entre le gouvernement de la République et le groupe Prométal à travers sa filiale Pro-Alu. Dans la même veine, un contrat commercial a été signé entre Alucam et le groupe Prométal. Les deux cérémonies se sont déroulées sous le regard incitatif du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté. Cet accord et ce contrat vont contribuer à la transformation structurelle de l'économie du pays. Voici le compte rendu de notre correspondante permanente à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono.
88 milliards d'investissements pour la mise en œuvre de Pro-Alu. Le projet d'industrialisation consiste à l'implantation et l'exploitation d'une usine de production de bobines de tôle en aluminium simple et prélaqué, de bobines d'acier et de fabrication des câbles électriques en cuivre au Cameroun pour le marché local et le marché sous-régional. Sur les visages des parties prenantes se lit un sentiment d'enthousiasme. Pro-Alu constitue assurément l'un des signes visibles de la politique d'industrialisation du pays à travers l'afflux massif des investissements directs étrangers. Autour de la table, les signataires du document projet sont bien connus. Côté gouvernement, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Fou Kalistu Gentry, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, et le directeur général de la société Alucam, Alain Melon. En face, Aïssam Al-Jamal, PDG du groupe Prométal à travers sa filiale Pro-Alu SA. Le document signé est constitué d'un préambule et de 33 articles qui traitent des dispositions générales des droits et obligations de Pro-Alu, des garanties du gouvernement et des dispositions diverses et finales. Dans le détail, les intérêts d'Alucam, l'équilibre entre les facilités gouvernementales et les retombées attendues au plan économique et financier ont été pris en compte. 550 emplois directs et 1000 emplois indirects, environ 6,3 milliards de francs CFA de TVA à collecter par an, 15,4 milliards de francs CFA de valeur ajoutée par an, réduction du déficit de la balance commerciale, transfert de technologie. À l'évidence, la fiche technique du protocole d'accord de référence et du contrat commercial répond point par point à la vision d'émergence du Cameroun telle que définie par le président de la République Paul Biya et consignée dans la stratégie nationale de développement SND30. Immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV.
L'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Cameroun vient d'être reçu en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les échanges entre son Excellence Nam Ki-wook et l'honorable Hilarion Eton ont porté sur le renforcement des relations entre les parlements des deux pays, matérialisé par les visites des parlementaires camerounais et coréens vice-versa. Face à la presse, le diplomate sud-coréen a fait le point des réalisations de son pays au Cameroun, une coopération bilatérale appelé à s'intensifier dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie. Le champ des interventions de la Corée du Sud au Cameroun reste ouvert. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La drogue continue de faire des ravages dans nos villes. Dans son discours à l'occasion de la clôture de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues le 11 juillet dernier, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, révélait que les jeunes de 19 à 32 ans sont plus exposés au Cameroun. Parlant de cette consommation de stupéfiants qui a des conséquences graves sur la santé, ces conséquences vont des troubles mentaux aux problèmes de santé physique. Les spécialistes mettent l'accent sur la prévention et la sensibilisation et encouragent par ailleurs les patients dépendants à recourir à des soins appropriés. Et pour de nombreux parents, les centres de désintoxication constituent une solution idoine pour la prise en charge de la progéniture. Voici le reportage de Marie-Claire Messi et Kobena.
Mon fils prenait la drogue. Je suis allée avec lui à Jamon. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a cette situation.
C'est avec beaucoup de peine que Pulcherie évoque ces moments tristes de sa vie. Pour la mère de famille, la dépendance de son fils Cédric à la drogue a complètement bouleversé le cours de leur vie.
On a commencé à observer ces changements lorsqu'il était en classe de troisième. C'est en classe de première que tout s'était dégradé. Il était agressif, on l'a renvoyé de l'école.
Aujourd'hui âgé de 30 ans, le jeune homme a pu remonter la pente grâce à une prise en charge médicale et psychosociale dans un centre de désintoxication.
Il y a des gens qui s'occupent de lui. Il prend normalement ses médicaments.
Un accompagnement qui constitue une étape cruciale dans le processus de guérison de nombreux malades et soulage par la même occasion les familles qui sont confrontées à ces difficultés. Et pour les spécialistes, un accent particulier doit être mis sur la prévention et la sensibilisation. Docteur Laure Menguené, psychiatre, par ailleurs, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique.
Avec les principes, les valeurs, les normes, en étant des modèles, en investissant sur le bon développement de nos enfants, en mettant l'amour au centre de notre existence, on va procurer aux individus un bien-être et ils n'auront plus recours à un plaisir artificiel.
Des méthodes qui permettent d'accentuer la riposte contre la consommation des drogues en milieu jeune.
Comment les jeunes se ravitaillent-ils? Quels sont les signes d'alerte et comment les déceler chez les adolescents? Notre reporter Charles Abosoloba a mené l'enquête. Voici son reportage.
Gianni Kondoua est un repenti. Ancien enfant de la rue, il a longtemps côtoyé les milieux de la drogue à Yaoundé. Aujourd'hui engagé dans la lutte contre la consommation de ces psychotropes, il maîtrise bien les rouages de ce marché noir.
Les jeunes arrivent à se ravitailler de la drogue par les dealers qui se trouvent dans les sites. Dans ces sites, on retrouve toutes les qualités de drogue.
Selon le ministère de la Santé publique, 87% des personnes sujettes au phénomène vivent en zone urbaine, les grandes villes où dealers et consommateurs multiplient des astuces pour recruter et faire circuler la drogue. Commissaire de police principal Fritz Mafani, commandant de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires.
Quand les enfants demandent souvent la permission pour aller dans les fêtes, il faut faire attention parce que ceux qui consomment la drogue profitent de cette occasion pour enrôler les novices. Ils mettent au cannabis dans le riz sauté. Et quand ceux qui ne connaissent pas consomment ces aliments-là, ils sont fort fatigués.
Les parents sont appelés à la vigilance, être à l'affût du moindre signe d'alerte chez les adolescents. Professeur Gustave-Georges Mboué, psychologue.
Il y a d'abord une sorte de constat, c'est l'excès de confiance en soi. Un adolescent sous fait de la drogue aura une très grande confiance en soi et ça va se traduire par des phrases du genre « je gère, j'ai pas besoin d'aide ».
Troubles de la personnalité, dépression majeure, actes autodestructeurs, les conséquences de la drogue sont dévastatrices sur la santé et la société.
Et le Cameroun a pris le taureau par les cornes dans la lutte contre les drogues au regard des dégâts humains causés par ces stupéfiants. La création d'une structure spécialisée permet aujourd'hui d'avoir une feuille de route sur ce qui est fait et ce qui reste à faire pour réduire la consommation des drogues, surtout en milieu jeune. Voici l'analyse de Liliane Mavungu.
La prévention et la sensibilisation restent les maîtres mots dans la lutte contre les drogues au Cameroun. Les jeunes étant les plus vulnérables, les meilleures armes de ce combat résident donc dans la sensibilisation à travers des caravanes comme cela a été le cas il y a quelques jours dans les artères de la capitale et dans les régions du Cameroun. L'objectif ici est d'atteindre le maximum de cibles. C'est ainsi que 47 sites ont accueilli les dites caravanes avec des dépliants, des t-shirts remis aux populations autour des séquences brèves de causeries éducatives. Il faut tout de même rappeler qu'au Cameroun, la substance la plus consommée est le cannabis, avec 689 cas, suivi de l'alcool, 378 cas, et du tabac, 366 cas. Le reste est reparti entre la cocaïne, le tramadol, les amphétamines et les autres drogues, avec plusieurs cas de polyconsommation. La question qui se pose est celle de savoir si les personnes consommatrices de drogue se rendent dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont les organes de travail du Comité national de lutte contre les drogues. Il y a également les hôpitaux de deuxième et de troisième catégorie. Le pays en compte 19 au total. Au final, la sensibilisation ne doit pas se limiter à montrer les dangers des drogues sur la santé et sur la société. Que non, il serait important de récupérer ceux qui en consomment déjà et les amener à arrêter de se droguer.
Merci d'écouter le 13h sur le poste national de la CRTV. Il est 13h11. La CRTV et le Festival Banane Plantain du Cameroun signent cet après-midi à 17h une convention de partenariat pour ouvrir de nouvelles perspectives à cette filière qui monte en puissance au Cameroun. La cérémonie aura lieu au centre de production de Mbaladé. Pour matérialiser cette convention de partenariat, Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV d'un côté, et de l'autre, Tony Obam, promoteur du Festival Banane Plantain du Cameroun et capitaine d'industrie. Au Cameroun, plus de 5 millions de tonnes de bananes plantain sont produites chaque année. Cette production est essentiellement alimentée par des agriculteurs indépendants, mais aussi par des acteurs de plus en plus structurés et qui misent sur la banane plantain, à l'instar de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain. Dans le secteur, la FCPB se positionne d'ailleurs comme le principal engrais qui entend booster la production nationale qui vise les 10 tonnes par an à l'horizon 2030. État des lieux de la production et présentation de cet acteur de la filière banane plantain, c'est avec vous, Oswald Medoum.
S'il prend pied sur l'ensemble du territoire national, le bananier plantain trouve un terreau fertile dans 6 des 10 régions du pays. Si sa production avait perdu du terrain lors des dernières décennies, l'on assiste aujourd'hui au renouvellement de la filière. À date, les chiffres donnent de l'espoir. Avec une production annuelle évaluée à 5,495 millions de tonnes, la contribution de la filière banane plantain dans le PIB du Cameroun s'élève à 4,5%, tandis que la banane plantain représente 16% des revenus des producteurs ruraux. Seulement, la demande reste importante. Elle est d'ailleurs alimentée par la pression démographique et un marché sous-régional friand du label camerounais, ce qui rend l'approvisionnement des grandes villes insuffisant. L'espoir de lendemain florissant dans le secteur est sauf et nombreux sont ceux qui y travaillent avec l'onction des pouvoirs publics. Dans cet univers, l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain du Cameroun tient le flambeau. L'ambition de la structure que dirige le jeune capitaine des industries agricoles, Tony Obam, a à cœur la promotion et le développement de la filière banane plantain au Cameroun. Elle s'est fixée le cap d'une production de 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2030. Aussi mise-t-elle sur des variétés spécifiques qui pourront améliorer le rendement dès 2025 à 14 tonnes à l'hectare et même atteindre les 16 tonnes à l'hectare en 2030. Cette ambition s'appuie aussi sur un centre d'incubation de référence internationale mis sur pied à Kribi, Il s'agit d'un centre de formation et d'accompagnement des porteurs de projets dans le domaine de l'agribusiness, spécialisé dans la filière banane plantain.
Selon les statistiques disponibles, les besoins en banane plantain au niveau national sont de l'ordre de 11 millions de tonnes par an pour une production annuelle actuelle estimée à près de 5,5 millions de tonnes. Les acteurs de la filière mettent en avant cet argument pour convaincre sur la nécessité d'investir dans ce secteur. Marie-Monique Mbozo.
Quatrième denrée de base au Cameroun après le maïs, le riz et le manioc, la banane plantain a été ciblée par la Stratégie nationale de développement 2030 avec un objectif de production annuelle de 7 millions de tonnes et demi en 2025. Le coordonnateur national du projet de développement des cultures fruitières au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Éric Maciel Avom Alara, parle de la demande actuelle.
Il existe une forte demande sur le plan national, sous-régional et même international en raison de sa forte utilisation dans la consommation et récemment un fort besoin dans les agro-industries, notamment pour la production de chips, de farine de plantain, de liqueur, de farine infantile.
Un grand besoin d'investissement pour accroître la production de cette spéculation est nécessaire.
La production en 2020 est estimée à environ 5 495 000 tonnes de plantain, alors que sa demande serait chiffrée au double de cette production. Et associée à celle sous-régionale, le besoin serait le triple de la production actuelle. Des besoins se font de plus en plus grands à l'export à l'international, avec une commande précise que nous avons aujourd'hui d'environ 40 tonnes de plantain frais par semaine sur l'Afrique du Sud. On en a également en France, en Belgique, en Suisse.
La banane plantain est une spéculation porteuse qui permettrait non seulement de satisfaire la demande nationale, mais également d'engranger des devises.
Je précise bien que la production nationale vise les 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2030. Je vous amène à présent à Douala et vous propose de vous projeter dans la soirée. Là-bas, le schéma est déjà tout tracé. Une fois sorti des bureaux dans les encablures de 17h, les habitants de la capitale économique qui travaillent dans les quartiers d'affaires et administratifs tels que Bonanjo, Bali ou encore Akwa se précipitent pour emprunter des taxis. Cette course contre la montre s'explique par des risques d'agression, des embouteillages et l'absence d'éclairage public. Scène de vie à Douala, une fois la nuit tombée, témoignage des automobilistes et usagers de la route. C'est dans ce reportage de José Gaëtan Tsanga de CRTV Littoral.
Des récits malheureux des victimes se racontent, certes dans un passé récent, mais avec beaucoup d'émotion.
Je sortais de la salle de sport à Bonapriso. J'ai emprunté une moto de Bonapriso pour Pekadis. Et au niveau de Newbel, après le foyer Banjoun, je me suis fait arracher mon téléphone étant sur la moto par des brigands. J'ai crié aussi. J'étais pratiquement 20h30. Bon, même les bicyclettes qui étaient autour n'ont pas pu suivre les gars en question.
Je suis sorti du travail, il était 20h30 ou 21h par là. Le taxi que j'ai emprunté, il y avait le chauffeur et un passager à sa droite. Derrière, il y avait une dame et un monsieur dont je suis entré derrière, ce qui fait que le monsieur s'est retrouvé au milieu. Nous avons roulé tranquillement jusqu'à vers la station qui est avant l'aéroport. Du côté du village, dès qu'il a vu que la zone était un peu sombre, c'est là où ils ont garé. Ils m'ont demandé mon sac. Je lui ai remis le sac sans résister.
Une violence qui est favorisée par l'absence d'éclairage dans certaines rues et avenues de la ville.
On n'a pas de patrouille. De temps en temps, il y a aussi le problème d'éclairage. Parce que dans différents carrefours, notamment, il n'y a pas vraiment d'éclairage.
La nuit ne rassure donc pas les automobilistes et usagers de la route. Dans la capitale économique, la peur des agressions plane et celle des embouteillages aussi. Douala, José Gaëtan Tsanga, CRTV.
Douala est une ville cosmopolite où circulent hommes et femmes presque 24 heures sur 24. C'est le propre des grandes métropoles, ce qui ne va pas sans risque, notamment en termes d'éclairage public visiblement insuffisant dans la ville. Et l'on va se poser la question avec vous, Olivier Kingemouli, sur le mouvement, les mouvements nocturnes à Douala, s'ils sont toujours autorisés dans ce contexte.
Si vous vivez à Douala, vous avez très certainement déjà entendu parler de microbes ou du phénomène dit de retour. Deux indices de perception de l'insécurité entretenus par de jeunes gens à mal de sensations. En face, ils ont trouvé la détermination farouche des autorités de la ville, en tête desquelles le gouverneur du littoral et les autorités municipales soutenues par les forces du maintien de l'ordre. Objectif, les ramener à des proportions vraiment marginales. Même si ces entrepreneurs de l'insécurité apparaissent parfois lâchement. Tenez, cette nuit, nous avons appris qu'un paisible citoyen a été victime d'une agression de microbes et a succombé aux blessures à lui infligées. Il est décédé. Quartier Bali. Mais il est une réalité qui peut constituer un autre facteur de l'insécurité en ville, c'est l'éclairage public en deçà des attentes des populations. Deux images les plus saisissantes de cette réalité, le second pont sur le Voré et la route menant à l'aéroport international de Douala. On peut donc légitimement proclamer le risque qu'il y a à se mouvoir dans la ville la nuit au motif que le défaut d'éclairage favorise l'insécurité. Éclairer la ville apparaît alors en fin d'analyse comme un vaste chantier auquel les autorités de la ville doivent s'attaquer après celui de la voirie urbaine où on voit un gros déploiement de la communauté urbaine même en temps de pluie, certainement pour montrer l'urgence de l'action et rassurer les populations.
Dans le département du Voré, région du littoral, pas un seul des 6 arrondissements n'est à l'abri de l'insécurité nocturne. Et sans se résigner, les autorités administratives, municipales ainsi que les forces de maintien de l'ordre ont déployé en synergie des moyens pour juguler ce phénomène. C'est le cas à Douala 2e par exemple, où l'exécutif municipal travaille pour améliorer l'éclairage public et assainir la voirie urbaine. Le maire Denis Fambou en parle au micro de Jean-François Ebolé Tabi de CRTV Littoral.
C'est une situation qui nous préoccupe tous, ce problème d'éclairage qui pose d'énormes problèmes. Nous avons, ensemble avec la ville de Douala, c'est-à-dire la communauté urbaine de Douala, déjà envisagé des solutions pour que ne serait-ce que les grands axes soient éclairés. Et je pense que l'obscurité aujourd'hui encourage ces malfrats à se cacher et à poser des actes que nous déplorons tous aujourd'hui. Il y a également le problème d'insalubrité, des ordures qu'il faut résoudre. Ce problème reste encore crucial dans notre commune. Les efforts sont menés dans ce sens afin que chaque citoyen de Douala 2e prenne en main ce problème d'insalubrité.
Dans le sud, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique clôture sa visite de travail de 2 jours à Ebolova. Mounouna Foutsou préside en ce moment, à la place des fêtes d'Nkovos, la cérémonie de clôture du stage des appelés du service civique. Une formation qui vise à bâtir une république exemplaire prônée par le président de la République. Retrouvons sur place Christian Blondel-Abia de CRTV Sud. Bonjour Blondel.
Bonjour, ils sont 150 jeunes Camerounais à recevoir à la place des fêtes. Donc on voit leurs attestations de fin d'engagement en tant qu'appelés du service civique national de participation au développement. 150 citoyens âgés de 17 à 21 ans scolarisés et non scolarisés. La clôture de la formation de la QV 2024 est présidée ici par les ministres de la Jeunesse et de l'Éducation civique. On en a Fotsou, accompagné du gouverneur de la région du Sud, Félix Lingué-Lingué, encourage les intéressés à sensibiliser leurs frères et amis, à s'inscrire au module de cette branche du programme d'éducation civique par le réarmement moral civique et entrepreneurial Pronec Riamorce. La QV 2024 a été formée pendant 30 jours au 11e bataillon de commandement et de soutien au quartier Angalais. Leur stage a consisté aux exercices militaires, aux échanges avec les magistrats, les enseignants, les médecins, les dignitaires religieux, sous la conduite des officiers et des encadreurs civils. Ils regagnent alors leur lieu de résidence respectif avec pour mission de lutter contre la délinquance et par conséquent d'adopter des attitudes responsables pour une nation prospère. Et les kits offerts à ces appelés permettront de démarrer l'année scolaire en toute sérénité. Ebolova, Christian Blondel-Abia, CRTV.
À l'étranger, avec la collaboration des stagiaires de l'ESTIC, République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge est le nouveau président du Sénat. Il a été élu hier par 90 voix sur 96 votants. À 47 ans, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo devient le suppléant constitutionnel du président de la République Félix Tshisekedi. Réouverture ce mardi de la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo, fermée depuis samedi. Un litige autour de l'importation des bières et boissons gazeuses avait conduit à la fermeture par la Zambie de 3 postes frontières avec la RDC. Les deux pays ont convenu de mettre en place une commission mixte de vérification sur l'origine des marchandises avant la traversée de la frontière. Le directeur général des impôts informe les contribuables particuliers non résidents au Cameroun tenus de souscrire une déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'exercice 2023 avant le 1er septembre 2024 qu'il ait mis à leur disposition un nouveau canal de communication pour les accompagner dans cette démarche. Le numéro messagerie instantanée 691-881-881. Avec ce nouveau service, ils pourront obtenir des réponses à toutes leurs questions concernant la procédure de déclaration de l'IRPP et bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Le directeur général des impôts rappelle que ce numéro vient compléter les mesures d'assistance déjà existantes, à savoir le helpdesk disponible en ligne sur le site web de la DGI, www.impots.cm, et le numéro vert 8200. La Direction générale des impôts réaffirme son engagement à simplifier les démarches fiscales et à accompagner les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations. Le directeur général des impôts compte sur le civisme de tous. En sport, Jeux paralympiques Paris 2024, la seconde phase de la préparation pour les Jeux basés sur l'acclimatation de la Cameroun Olympic Team se poursuit à Poitiers en France. L'unique séance d'entraînement de ce mardi a eu lieu en matinée. La Cameroun paralympique Team sera reçue cet après-midi par les autorités de la ville de Poitiers. D'autres explications avec le chef d'émission Jules Théodore Essindi. Il a été joint au téléphone par Didier Marussetundi.
L'état d'esprit de la délégation est au beau fixe, ainsi que le moral des paralympiques qui sont conscients des objectifs qu'ils doivent atteindre, c'est-à-dire faire au moins un podium lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. La délégation sera reçue par les autorités de la ville de Grand Poitiers. Nous promettons aux Camerounais de donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter honorablement le Cameroun du côté de ce grand événement mondial planétaire sportif. Car tout est possible à Paris parce que impossible n'est pas camerounais.
En Interpol 2024, le tableau des demi-finalistes de la compétition sera complet ce jour au terme des matchs de la cinquième journée. Si les deux qualifiés de la poule A sont connus, le suspense est entier dans la poule B où deux équipes se disputent le second ticket qualificatif. Jean Armstrong Djou.
Atlantique FC de Kribi va jouer les arbitres entre Krimi FC de Garoua et Volcan du Noun. Avec 9 points et déjà qualifié pour les demi-finales, le représentant de la région du Sud rencontre Volcan qui a 6 points. Une victoire et la formation de l'Ouest sera automatiquement qualifiée pour la suite. Un nul sera préjudiciable avec 7 points. Elle sera éliminée parce que ayant été battue par l'autre postulant, Krimi FC de Garoua, 7 points également. Le plénipotentiaire de la région du Nord, exemple de la journée, va prier pour que l'équipe du Noun soit battue ou qu'elle soit contrainte à un partage de points. Le second match de cette poule B est sans enjeu. Les Girondins de Ngaoundéré ont un point déjà hors course comme l'adversaire de la journée, Boya United, 0 point. Déjà qualifié en demi-finale, les deux clubs leaders de la poule A, Mintak FC de la Haute-Sanaga et l'Union d'Abomba. Mintak sera face à Botafogo de Douala et les Américains de l'Est affronteront Sporting FC de Maroua.
Voici à présent le condensé de l'actualité de la mi-journée en langue anglaise. Doris Bati Tato Ekwe.
Good afternoon. Ways of deepening existing mutually beneficial relations between Cameroon and South Korea have been reviewed during an audience granted the South Korean ambassador to Cameroon by the first deputy speaker of the National Assembly. On behalf of the speaker, Ambassador Nam Ki Wook, extraordinary and plenipotentiary, and Honorable Ilarionge Tong, both described as excellent diplomatic ties between Seoul and Yaoundé, which date as far back as 1961. They hope to spread their friendship at the level of their parliaments. The government of Cameroon has given the go-ahead for the setting up of a company which will produce over 60,000 tons of finished aluminium products per year. The enterprise known as ProAlu, which is a subsidiary of Prometal, is an investment worth 88 billion CFA francs and is expected to generate some 500 direct jobs and 1,000 indirect ones when it starts production by the first semester of 2027 in the Douala Bassa Industrial Zone. The protocol agreement to set the process in motion was signed today in Yaoundé under the auspices of the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gote. Recent statistics reveal alarming rates of substance abuse among Cameroonian youth, with 72.4% reportedly consuming tobacco and cannabis, and 79.3% consuming alcohol. Recognizing the seriousness of this issue, the newly launched National Strategic Plan for Combating Drugs 2024-2030 aims to stop both the supply and demand for illegal drugs, mitigate health risks, and enhance institutional responses. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, has called for a collective effort from all Cameroonians, stressing that combating drug abuse is a shared responsibility that requires community engagement. And out of Cameroon, former Prime Minister Jean-Michel Sama Lukonde Kienge has been elected President of the Senate of the Democratic Republic of Congo. The former DRC head of government, who took office in February 2021 and resigned 3 years later, was elected President of DRC Parliament's upper house with 84 votes out of 95 during a ballot to elect the members of a permanent bureau on Monday. Sam Lukonde, a candidate of the Sacred Union, a coalition of political parties around the country's president, promised his fellow senators to build an efficient, modern, and accessible Senate. He succeeded Modeste Bahati Lukwebo, also a candidate of the Sacred Union. And in sports, the last group matches of the 2024 National Interpols are programmed for this afternoon at the CAF Center of Excellence in Bankomo and at the FECA Food Training Center in Oja. In Group A, leaders Mintak FC of the Upper Sanaga will take on Botafogo FC of Douala, while Sporting FC of Maroua will clash with Union Sportive of Abongbang at Oja. In Group B, Atlantic Sports Academy of Kribi will confront Volcan of the Noon, and Girondin of Ngaoundéré will pair up with Boya United. These stories and more coming up at 3 p.m.
Avant de nous séparer, à retenir de l'actualité, un protocole d'investissement signé entre le gouvernement de la République du Cameroun et le groupe Prometal à travers sa filière Pro Alu, et un contrat commercial signé aussi entre Alucam et le groupe Prometal, c'était aujourd'hui à l'immeuble Étoile, sous le regard du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté. Banane plantain, un secteur au cœur de la nation, la CRTV apporte sa contribution à l'expansion de cette filière qui produit plus de 5 millions de tonnes de bananes plantain chaque année au Cameroun. C'est à travers une convention de partenariat qui sera signée cet après-midi en Baladu entre le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le promoteur du festival Banane Plantain du Cameroun et capitaine d'industrie, Tony Obam. Consommation de drogue en milieu jeune, les 19 à 32 ans ou la tranche en danger, la révélation du ministre de la Santé publique, Manauda Malachi, à la clôture il y a quelques jours de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. Mesdames, messieurs, merci pour votre très aimable attention. À demain, 13h.